Petite précision avant de commencer. Cet échange, c'est un témoignage d'un de nos clients, Louis, cofondateur de Lino. Tu verras, l'échange est passionnant. Si jamais tu es entrepreneur et que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour réussir la croissance de ta boîte, tu peux retrouver tous les détails sur notre accompagnement. Tu verras, tout est expliqué. Il y a plein d'autres témoignages que celui de Louis. On a accompagné plus de 500 entreprises depuis le début. On a généré plus de 47 millions d'euros pour nos clients. On a arrêté de compter au bout d'un moment parce que ça faisait trop. Bref, on reprend la vidéo. On est en plein sujet BFR en ce moment de notre côté chez Scalesia. Donc, je suis trop content qu'on parle.
Ah bah super.
Bienvenue, Louis.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, du coup.
Bah avec plaisir. Merci d'être venu. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est trop cool. Comment tu te présentes? Comment tu présentes ta boîte?
Aujourd'hui, la problématique qu'on veut résoudre, c'est l'accès au financement de BFR et Trésor pour les PME et surtout le pilotage. Okay. Et pour cela, du coup, on a construit Lino, qui est une plateforme qui intègre ou centralise les solutions de financement de BFR et Trésor, on va dire digital, numérique, au même endroit. Du coup, l'entreprise, ça peut tout piloter au même endroit. Et du coup, derrière, ce qu'on fait, c'est optimiser les coûts et optimiser les accès au financement.
OK. Donc, pourquoi on parle du BFR? Le BFR, c'est le besoin de fonds de roulement. C'est ni plus ni moins que du cash flow, en fait. C'est fondamental, à fortiori quand tu fais du service, parce que tu n'encaisses pas nécessairement aussi vite que tu décaisses. Donc, l'argent ne rentre pas forcément à la même vitesse qu'il ne sort. Et donc, au bout d'un moment, tu peux te retrouver avec un effet ciseau où tu es rentable sur le papier, tu signes, mais tu n'encaisses pas assez vite. Donc, tu te retrouves avec des caisses qui sont soit déficitaires, soit très à plat, très fragiles. Donc, soit ça te met complètement sur le carreau, soit tu peux pas financer ta croissance et c'est très compliqué. Et donc, en fait, toi, tu proposes des relais qui te permettent de financer ce BFR, donc d'avoir des caisses qui sont relativement pleines, en tout cas qui ne se vident pas, pour pouvoir appuyer ta croissance, ne pas te fragiliser financièrement, etc., et continuer de pérenniser le truc.
Exactement. Okay. Et je pense que tu l'as expliqué mieux que moi. Ça veut dire du coup que tu as été confronté à cette problématique de BFR.
les joies du service. Hein.
Voilà. Donc en gros, notre spécificité, c'est que ce n'est pas Lino qui prête de l'argent. C'est ce qu'on fait. En fait, c'est qu'on a fait des gros partenariats avec des prêteurs digitaux. Donc, tu connais Carmen, De Facto, sure. Ouais. Silver, Octobert, et vraiment toute la place de Paris en France. Et le but, en fait, c'est de pouvoir intégrer les API, donc les tuyaux technologiques, avec notre plateforme. Okay. Et quand tu disais justement, tu avais raison, le BFR, c'est, on va dire, cette durée entre l'encaissement et le décaissement qui est parfois peut-être assez fort. Et nous, on le vit aussi aujourd'hui, en fait, et des retards de paiement. Et donc, l'idée, c'est pouvoir orchestrer, du coup, différentes solutions en parallèle pour les entreprises, pour pouvoir, du coup, faire face à ce BFR qui se rallonge de plus en plus.
Ça, au moins, vous êtes bien équipé pour votre propre BFR à vous, quoi.
Exactement. Exactement. Voilà.
Ça, c'est un des adages un petit peu de la Startup Nation, c'est « eat your own dog food ». Donc c'est soit l'utilisateur ton propre produit, bon bah là c'est tout trouvé pour vous. Mais ouais, effectivement, c'est un gros sujet. On voit souvent, tu sais, on réfléchit souvent au PNL. Ouais. Donc profit and loss, il y aura beaucoup d'anglicisme je pense dans cet épisode, nous en voulez pas, mais on réfléchit en addition soustraction, en marge. En marge nette brute, combien je vends, combien je dépense pour délivrer, tout simplement. Ouais. Sauf qu'on oublie la mécanique de liquidité,
ouais,
qui fait que pas forcément l'argent va être, a fortiori en B2B, versé sur la base d'une timeline qui est la sienne.
Ouais.
Et donc, c'est pas parce que tu signes un deal que tu vas toucher l'argent incessamment.
Tout de suite, exactement.
Tu peux mettre beaucoup, beaucoup de temps à le signer. Et le truc, c'est que très souvent, par biais d'optimisme, fortiori quand t'es primo founder, c'est-à-dire l'immense majorité des entrepreneurs, t'as tendance à très vite te raconter des histoires, à partir dans des narratifs très optimistes, où tu vas te figurer que l'argent que tu viens de signer, que le CIA que tu viens de signer, soit va rentrer très vite, soit est déjà rentré, et tu peux très vite partir dans une petite psychose comme ça. Soit tu vas complètement occulter le fait que tu vas avoir une proportion non négligeable de clients qui vont bizarrement vont oublier auront annulé le CEPA, on sait pas trop pourquoi, vont contester la facture alors que t'as délivré. Et en fait, toute cette tout cette accumulation là au bout d'un moment va créer une vraie complexité parce que tu te retrouves avec des caisses qui se vident, obligé d'aller piocher dans ta trésor et c'est une vraie galère quoi.
Ouais carrément, et c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup je peux juste ajouter le fait que quand tu es primo founder, tu as un peu peur de relancer les clients parce que tu as peur du coup de casser un peu la relation que tu as construite et que tu as galéré c'est à construire sujet, pendant des mois et des années. Et du coup, ça crée énormément de problématiques dans le quotidien, dans le cash, dans la liquidité. Mais en fait, en plus, c'est que quand on parle de BFR, ce n'est pas juste les sociétés qui vont mal ou qui se font pas payer par leurs clients. C'est aussi le fait que, par exemple, un commerçant de gros qui a gagné un gros contrat auprès d'un client, en fait, a besoin d'acheter du stock et l'acheter avant qu'il ne soit payé par son client. Et du coup, pour cela, on est du coup dans le cas de la croissance et où il faut vraiment décaisser pour acheter le stock. On est toujours dans l'OBFR, mais pour un cas un peu différent. Et du coup, pour grandir et faire du growth, il faut du coup dépenser. Et c'est ce que du coup, on essaie de comprendre de manière automatisée avec Lino. En gros, c'est ce qu'on fait, c'est qu'un client arrive à chez nous, connecte leurs données bancaires en open banking, donc de manière sécurisée. Et la liasse fiscale. Et ensuite, on va comprendre les premiers éléments pour savoir comment on peut l'aider à améliorer la trésorerie et l'OBFR. Et ensuite, on va envoyer aux partenaires les plus adaptés à répondre à cette problématique les premiers éléments financiers. Et c'est comme ça, en fait, on va recevoir les réponses de ces partenaires financiers. Et ensuite, voilà, le partenaire, enfin, le client peut financer son BFR sur notre plateforme. Et du coup, tu peux le voir comme un mélange entre Kayak, parce qu'on va répertorier l'ensemble des solutions de financement, et Amazon, parce que quand tu achètes sur Amazon, tu ne sors pas de l'interface Amazon pour acheter les choses. Voilà, c'est un peu notre spécificité.
Ok, d'accord. Hey, c'est Benoît, j'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance, c'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie 2 fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit, on se donne beaucoup beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt ChatGPT inédit, de notre propre création, je te parle d'outils IA dont on fait la curation, je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes, qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000, donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo.
Trop cool. Et donc là, on sent que le pitch est bien bossé. C'était quoi le sujet quand vous êtes venu nous voir? C'était quoi le sujet? Sur quoi vous vouliez qu'on vous aide?
Alors, moi, je suis ingénieur à la base. Okay. Doctorat, dans la recherche pendant 7 ans. Mon associé, il est extrêmement techos. C'est un techos de ouf. Du coup, quand on parlait de growth, de la vente, de marketing, on savait rien de chez rien. Et moi, j'avais fait un MBA à l'ESSEC, justement pour un peu comprendre c'est quoi le marketing, la croissance, la partie financière. Mais j'étais vraiment trop, on va dire, trop naïf par rapport à ce que ça représente. La multidimensionnalité, en fait, de quand on parle de tout ce qui est croissance et commercial. Et c'est ça, en fait, qu'on a cherché chez Scalicia. Je me rappelle, j'avais écouté un podcast à toi et j'étais dans un RER A parce que j'habite vers La Défense.
Et Le meilleur.
Et le meilleur. Et je me suis dit, je vais écouter ce podcast, ça parle du growth. Bon, et l'année prochaine, je pense que ça va être un peu important pour nous. Et puis voilà, j'étais assez séduit par le discours. Et en fait, c'est ce côté de vision 360 degrés de tout ce qui est commercial. Et puis j'ai appelé mon associé, je lui ai dit, écoute, ce podcast, c'est intéressant. Je vais essayer de contacter Scalicia. Après, je suis vénézuélien et mon associé est italien, donc on dit toujours Scalicia, mais je ne sais pas si c'est...
Ah, c'est beau ça. Ah, ça sonne bien.
Scalicia, donc voilà. Donc, je vais appeler Scalicia pour savoir si on peut faire quelque chose ensemble. Et c'est Romain, du coup, qui m'a contacté, puis le courant est bien passé.
Excellent, trop cool. Donc là, c'est avec Romain que vous avez échangé?
Ouais, trop bien. Le premier appel.
Et c'est quoi les sujets? Parce qu'à chaque fois, tu l'as dit, on a vraiment une vision de la croissance qui... Alors... On n'utilise plus trop les termes 360, ouais, holistique et tout, mais c'est le cas en fait. C'est-à-dire que de toute façon, une boîte, un entrepreneur n'a que trois questions auxquelles il doit répondre. C'est comment est-ce que je trouve toujours plus de clients? Comment est-ce que j'augmente la valeur unitaire de chaque client? Et comment est-ce que je continue de répondre toujours mieux, toujours plus aux deux questions précédentes?
Oui.
Voilà. En fait, clairement, 100% ouais. des business plans répondent à ces trois questions à chaque fois. Et donc en fait, quand on a compris ça, on a compris que t'as une infinité potentiellement de systèmes à mettre en place.
Oui.
T'en as en tout cas pas mal, et que ces systèmes vont s'interconnecter. C'est là qu'on parle de croissance holistique, qu'on parle de 360, parce que tu ne peux pas répondre à une seule question ad vitam aeternam sans à un moment donné créer des lacunes, créer des déséquilibres qui vont poser des problèmes, des gros problèmes structurels, économiques et tout. Et donc c'est pour ça que nous on essaie de vraiment envisager ça en un tout cohérent. Ou forcément, bah, pendant un temps, tu vas bosser sur ta première question, sur ton acquisition, mettre en place un système pour aller chercher des clients toujours plus et tout. Mais à un moment donné, tu vas devoir bosser sur ta rétention, tu vas devoir bosser sur sur ta LTV, là, donc ton pricing, combien les clients vont te payer, comment est-ce que tu fais en sorte de leur vendre plus du même produit ou d'un autre produit, etc. Et après, tu vas devoir bosser sur ta structure de croissance, comment est-ce que tu recrutes, ton management, ta culture, pour faire en sorte que ta structure puisse justement subvenir à tes besoins économiques. Et ça, c'est un vrai travail d'équilibriste. Et c'est ce qui, on le voit aujourd'hui, fait toute la différence, quoi.
Ouais.
Et donc là, quand vous discutez avec Romain, c'est quoi les sujets que vous avez, que vous avez identifiés ensemble? Parce que j'imagine que là, il doit y en avoir pas mal, forcément. Sur quoi vous êtes concentré?
Franchement, je pense qu'on a tout. On a parlé de tout. Parce que je pense que quand tu connais pas le... Tu ne connais pas le métier et tu es assez novice.
Ouais.
Ce qui nous a séduit de Romain, par contre, avant de répondre à ta question, c'est le fait que, en fait, il a fait un map mapping, justement. Et pour chaque, on va dire, endroit de map mapping, il a mis marketing et proposition de valeur. Il a vraiment fait, on va dire, toutes les dimensions de la croissance. Et du coup, c'était vraiment top. Donc, pour nous, c'était la première chose, quel est le discours? Parce que quand tu dis avoir plus de clients, il y a énormément de questions qui se cachent derrière. Comment mieux véhiculer la proposition des valeurs? Comment parler à un client? C'est quoi la posture, même la manière de t'asseoir? Comment on peut le faire? Comment on doit le faire? C'était aussi, par exemple... Quand tu disais que aussi trouver plus des clients, c'est où se cachent les clients. Comment vraiment craquer le canal de, on va dire, d'acquisition client le moins cher possible, le plus rapide, pour justement pouvoir démontrer les hypothèses. Parce que l'année dernière, on avait énormément d'hypothèses. On n'avait que deux clients quand on a commencé, ou un client et demi. Et du coup, on avait énormément d'hypothèses, des choses à démontrer, à pouvoir valider. Et du coup, c'est justement ça, comment... Même avoir un pool petit des clients pour démontrer les premières hypothèses. Et ensuite, comment tu disais, comment garder les clients. Mais je pense que garder les clients existants, parler des LTV, CAC et tout ça, pour nous, c'était un peu trop tôt. Parce que du coup, la première chose à faire, c'était vraiment est-ce que les clients sont prêts à acheter ce qu'on veut vendre. Et en fait, il y avait quelque chose qui nous a marqué avec cette première partie qui était Victor, notre formateur. Je ne sais pas si tu dis formateur. Il nous a dit « Vous avez trop peur de faire payer les clients. » Et je pense que c'est justement cette vision de « Est-ce qu'on fait les choses bien ? Le produit n'est pas prêt, on ne va pas faire payer. » Mais il m'a dit « Non, mais on s'en fiche, il faut faire payer les clients parce que la proposition des valeurs est là. » Donc lui, il nous a vraiment poussé pour avoir un business plan et puis à pouvoir avoir un pricing vraiment intelligent par rapport à la proposition des valeurs. Donc, cette partie vraiment en amont. Ensuite, je me rappelle avec Pierre-Emmanuel, on faisait des jeux de rôle. Et il m'interviewait, il était comme un client chiant. Et du coup, il faisait le client chiant un peu râleur. Et du coup, c'était assez intéressant. Du coup, on s'est enregistré. Et il notait les choses à améliorer. Et c'est ça, c'était vraiment top. Et du coup, c'est vraiment quel discours on peut avoir, comment parler en fait avec le client sur la proposition des valeurs aujourd'hui qui n'est pas complète parce qu'en gros, on avait un produit qui n'était pas fini et la promesse future. Et du coup, il fallait lui faire acheter aujourd'hui un produit pas fini et compte tenu de la promesse future. Et pour nous, ce n'était pas évident parce qu'on est des ingénieurs. Donc, on aime avoir un produit fini et le lancer. Mais justement, ce n'était pas ça vraiment la partie agilité que Escalezia nous a appris. Et ensuite, il avait Charlotte. Et c'était assez compliqué parce que on n'est pas très présent sur les réseaux sociaux. On n'aime pas les... Enfin, on n'aime pas... C'est un peu compliqué, une relation de haine et amour avec les réseaux sociaux. et on a toujours de mal à parler en public, on n'aime pas trop. Et puis Charlotte nous a forcé, plutôt m'a forcé à faire le premier post. Et il y a quelques mois. Et c'était assez intéressant parce que du coup, vraiment sortir de la zone de confort, c'était pour nous assez une expérience assez puissante. Est-ce que ça répond à ta question ? J'ai beaucoup parlé, mais...
Non, trop bien. Non, mais génial, justement. Et donc, il y a eu pas mal de choses. Positionnement de départ.
Oui.
Pricing. En fait, go-to-market, en
Exactement.
Fait, avec Victor, quoi.
Exactement.
Comment est-ce que tu vas chercher les premiers, tes premiers clients ?
Exactement.
Vous en avez combien aujourd'hui ?
On en a plus d'une cinquantaine. Enfin, on en a une centaine de clients sur notre plateforme. Une cinquantaine qu'on a déjà financé.
OK. Ok, donc t'as 100 clients là qui sont sur, bah en gros, qui sont des projets en cours. T'en as 50 là qui ont abouti.
Exactement.
Vous en avez combien au début quand on a commencé à bosser ensemble?
On en avait deux. Un demi.
Ok, c'est génial. Trop bien. Et donc en fait, vous avez affiné un pricing. Ouais. Vous avez bossé. Et là c'est ce que t'as dit en filigrane qui est passionnant et qui fait là aussi toute la diff, c'est... le fait d'avoir bossé sur vos barrières mentales, en fait, sur vos blocages, parce que t'avais deux méconceptions qui avaient tendance à te restreindre, à t'entraver. C'était le fait que t'avais peur de te confronter à la réalité du marché, t'avais peur en fait du refus, t'avais peur du feedback potentiellement négatif, et t'avais cette vision très très monolithique, très binaire, très très waterfall en fait de ce qui est censé être un produit, alors que là nous on va promouvoir plutôt une approche très incrémentale, très itérative du produit où chaque nouvelle version est l'occasion de faire encore mieux la fois suivante, et où en fait tu vas te baser avant tout sur du feedback et chaque nouveau produit, chaque nouvelle version est une nouvelle occasion de te confronter au marché pour voir ce qui va, ce qui va pas, quoi.
Exactement.
Alors c'est doux, ça peut être douloureux, ça peut être frustrant. Mais par contre, à long terme, ça fait beaucoup de temps, quoi.
Non, mais t'as raison. Hein. Et, c'est ce qui est drôle, en fait, c'est que moi, j'étais, tu vois, CPO d'une société assez grosse. Et nous, on était vraiment dans l'agilité, tester, valider. Mais quand c'était ton bébé, je pense que t'as peur que les gens disent que ton bébé, il est moche. Et de faire payer, surtout. Et du coup, ce forcing a été vraiment bénéfique. Et aujourd'hui, par exemple, on fait des choses à parfois très moche, mais on le lance. Et on verra par la suite. Mon associé me dit, c'est mieux dehors qu'à l'intérieur. Et du coup, on lance le produit, on le fait payer et ensuite on l'améliore. Et justement, c'est cette agilité, comment tu l'appelles, c'est ce qui nous a vraiment appris Escalezia, quoi.
C'est... tu sais ce que c'est, hein? De toute façon, t'es CPO, donc tu le sais mieux que moi, mais dans la vallée, un des indicateurs premiers d'une finançabilité d'une boîte, c'est à quelle vitesse ça va shipper de la feature, à quelle vitesse ça va sortir continuellement de nouvelles fonctionnalités.
Exactement.
Et en fait, c'est hallucinant à quel point t'as un indice qui est logarithmique entre certaines boîtes, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir des boîtes qui vont sortir une feature toutes les deux semaines, d'autres qui vont sortir une nouvelle feature tous les deux mois, et t'en as qui vont sortir cinq releases par jour, quoi.
Ouais.
Alors, c'est pas des features en tant que telles, mais qui vont sortir cinq releases par jour. Et donc, cinq mises à jour avec cinq nouveaux tests, en fait. Et forcément, dans ces cinq tests, tu vas en avoir quatre qui sont pourris, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que là, t'es dans une, là, tu joues sur des nombres, en fait. Tu joues sur des grands nombres. Et le truc, c'est que ça s'ancre derrière sur un constat qui est très inconfortable, qui est que ce qu'on fait est extrêmement chaotique.
Oui.
Que finalement, on n'a aucune réelle maîtrise de ce qu'on fait.
Ouais.
Très souvent, on va s'expliquer les choses par des narratives qu'on va ficeler à posteriori, tu vois.
Ouais, tout à fait.
Et le seul truc que tu maîtrises, c'est à quelle intensité tu y vas à l'instant T et à quel est ton input par unité de temps, quoi. À quel point tu vas exécuter, à quel point tu vas y aller. Et ça, c'est ce qui te donne le plus de chances de réussir à long terme. Sous peu que tu le fasses de façon régulière, que tu t'arrêtes pas. Parce que finalement, c'est là que tu augmentes tout simplement tes chances de trouver ce qui fonctionne.
Ouais, exactement.
Et donc, nous, c'est vraiment ce qu'on prône. Et vous l'avez exécuté de fou, donc c'est trop, trop bien, quoi.
Bah écoute, on essaye. En tout cas, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on est toujours deux personnes. Et deux personnes, on a deux freelances. Et du coup, comme tu disais, shipper de manière constante, ah, c'est dur. C'est très dur parce que du coup, c'est moi qui fais la partie marketing, vente, bah, growth.
Là, ce dont tu m'as parlé depuis tard, c'est du marketing. Hein.
Voilà, growth, vente, je close et je gère les clients existants. Et mon associé, il est vraiment machine de guerre, en train de shipper, faire de nouvelles fonctionnalités, intégrer des partenaires financiers, etc. Et c'est une boîte technologique, donc il y a pas mal de bugs. Et du coup, c'est lui qui aussi gère les bugs. Et du coup, comme tu disais, c'est vraiment, enfin, c'est vrai. Et tout ça, un sens de chaotisme. Tous les jours, tu commences la journée avec un agenda, mais ça finit différemment parce que justement, tu ne sais pas ce qu'un client va voir, le souci qu'il va avoir sur la plateforme à la fin de la journée. Quoi.
Comment tu fais pour gérer les impondérables comme ça au quotidien et garder le focus?
Alors, moi, j'aime bien quand ça change, dans le sens où je ne suis pas quelqu'un qui se fixe un agenda et suit les choses. Vraiment, je ne sais pas le faire. Et du coup... Je laisse normalement 3 heures, 4 heures pour gérer les problématiques et je sais qu'ils vont arriver. Donc, en gros, je fais 3 heures pour faire des choses, des tâches de fond. Et le reste de la journée, je sais que ça va être pour gérer les problèmes des clients. Donc, c'est plutôt comme ça. Je vis de manière un peu plus calme depuis que j'ai adopté ça.
Ça change tout, hein.
Ouais.
Le nombre d'entrepreneurs qui, je vois, ont un fuselage, une structuration ultra chaotique. Enfin, ultra désordonnée de leur journée, alors que le simple fait de consacrer les 2-3 premières heures de ta journée à bosser sur ton système, en fait, à faire ton rôle, à faire jouer ton rôle d'entrepreneur, en fait.
C'est ça.
Bosser tes process, bosser ton produit, vraiment te concentrer sur ta tâche ou tes tâches du jour qui vont faire avancer ta boîte dans le bon sens, et ensuite consacrer le reste de ta journée effectivement à gérer les impondérables, le soir quand t'es cramé, ta compta, mais vraiment de t'astreindre à cette structure de journée-là, en fait, ça fait toute la diff. Ça fait toute la différence. Quoi.
Ouais, carrément. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, il s'appelle Jean Alain. Le nom de famille, trop français, j'ai du mal.
De la Roche Brochard.
Voilà, merci. Ouais. Roche, voilà.
De Kim Aventures.
Voilà, c'est ça. Et en gros, il parlait une fois, il disait il faut vraiment craquer les canaux de distribution. C'est ça qui fait vraiment la différence pour une société. Et du coup, je pense 40% de ma semaine à tester, à imaginer de nouveaux canaux de distribution pour Lino. Et du coup, c'est assez bénéfique parce que ça permet justement de bosser les stratégies long terme et en parallèle du coup de quotidien. Et parfois, c'est un peu dur parce que quand je parle trop long terme avec mon associé qui est en train de coder et sur les bugs qui arrivent aujourd'hui, il me dit « Non, mais parle pas de ça. Je préfère que tu me dises comment résoudre ce bug plutôt que de me parler où est-ce que Lino pourrait aller se vendre. » Et du coup, pour moi, c'est la partie la plus compliquée. Pas tant la gestion de chaos, mais comment gérer le long terme avec le court terme. Je sais pas si ça a du sens.
Je pense que c'est un des plus gros enjeux l'entrepreneur, c'est justement concilier ces temporalités, quoi. Parce que tu dois faire du cash à court terme, en même temps tu sais qu'il y a une partie de ce cash qui va te coûter potentiellement des relais de croissance à long terme parce que t'es pas en train de travailler la suite, et donc t'es sans arrêt dans cet équilibrisme là qui est très compliqué, quoi. Donc ouais, je me retrouve totalement dans ce que tu dis, et en fait pour moi il y a pas de aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait de solution en tant que telle, autre que de justement créer cette discussion là, tu vois. Continuer de les créer, continuer de prendre la tête à ton fondateur avec du moyen, du long terme, parce que c'est des discussions qui doivent avoir lieu, pas au prix justement du court terme, mais il faut garder cet aspect visionnaire, faut garder un œil sur le cap, parce que sinon effectivement, t'as très très vite fait de te mettre à faire des zigzags et à infléchir un petit peu ta trajectoire, et au final tu te retrouves au Nicaragua au lieu de te retrouver au Canada, quoi. Et c'est problématique, quoi. Donc
je comprends. Et justement, ça revient sur ce que tu disais, Scalesia. Et pour nous, en fait, c'était assez incroyable le retour sur investissement à court terme, tu vois, d'Escalesia. le fait de pouvoir savoir vendre le produit, ça nous a fait du coup arriver aux indicateurs KPI d'aujourd'hui et du coup de pouvoir nous focaliser sur les relais des croissances. Bien qu'on commence à peine, hein, ça fait quoi, 9 mois qu'on a commencé vraiment l'industrialisation de l'offre et ça pousse assez bien, ça grandit bien. Pas assez à notre goût, on aimerait que ça soit 10 fois, 20 fois plus grand. Mais et justement, c'est assez incroyable ce qu'on a appris au début d'année. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on a testé après les apprentissages d'Escalisia. Je sais pas si c'est clair ce que je dis.
Si, c'est trop bien. Bah, en fait, vous avez vraiment posé vous avez posé des bases, en fait. Et aujourd'hui, ça continue de vous payer des dividendes, quoi.
Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce que tu peux nous dire là sur les résultats, justement, si t'as des choses. Alors, tu m'as parlé des 2 à 50 clients. Dont et 50 autres, enfin 50 projets en cours. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire là au niveau des résultats, des chiffres?
Par exemple, aujourd'hui, on a multiplié par 20-30 le revenu mensuel après Escalisia. Et encore une fois, on a multiplié par 10 et 15 le nombre de clients. Et d'ailleurs, j'ai deux voire 3 et beaux partenariats avec des gens de Escalisia, des anciens Escalisia.
Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est trop bien.
Et du coup, on s'est parlé sur le Slack. Et maintenant, on est vraiment copains et puis on est partenaires. C'est vraiment top.
Bah, parce que vu qu'on fait grossir des boîtes, forcément.
Ouais.
T'es comme un poisson dans l'eau sur le Slack.
C'est ça, exactement. Mais ce sont même pas des clients en vrai. Ce sont des partenaires, en fait, de distribution. Et c'est vraiment top. Il y avait quelqu'un qui m'avait appelé de nulle part il y a quoi, 2 mois pour me demander. Mon retour sur Escalisia. Et du coup, il a finalisé ce cours, je ne sais pas comment l'appeler, sa formation Escalisia là. Il était très content. Et puis maintenant, voilà, on fait 2 business ensemble. Et donc, voilà, déjà 2 clients Escalisia, partenaires. Mais je pense que, en fait, c'était vraiment ça, quoi. Je pense que c'était dépenser l'argent Escalisia. Et qu'est-ce qu'on allait obtenir après? Et pour nous, c'était un peu flou. On a pas mal hésité. On parlait. Mon associé qui s'appelle Ruggero me disait « Non, mais attends, pourquoi dépenser ?» Je disais « Mais il faut dépenser pour grandir, les ROI. » Mais maintenant, du coup, je pense que c'est une des dépenses les plus saines qu'on a eues depuis le début de l'expérience entrepreneuriale.
C'est ce que dit très souvent Jules, mon cofondateur. C'est il y a énormément de boîtes qui se casse la gueule par mauvais investissement. Beaucoup qui se cassent la gueule par manque d'investissement. Par contre, t'en as aucune qui se casse la gueule par excès d'investissement.
Ouais.
Par contre, par excès de mauvais investissement, oui. Ouais. Mais tu t'investis jamais trop dans ta boîte.
Ouais.
T'investis jamais trop. Par contre, tu vas trop peu investir et à un moment donné, ça va par coup d'opportunité. Bah, te coûter des relais de croissance qui, à terme, bah ouais, peuvent te coûter ta boîte, quoi. Et ça, c'est vraiment un exercice mental qui est compliqué à faire, de se dire, cet argent-là, de toute façon, faut pas qu'il dorme. Faut que je l'investisse soit dans ma boîte, soit dans moi. Mais à un moment donné, la meilleure chose que je puisse faire, c'est justement de créer ce flux. Et là, si aujourd'hui, mon objectif n'est pas encore atteint, le seul truc que je peux faire, c'est d'investir dans mes compétences, dans la densité de talent de ma boîte, d'investir dans mes systèmes pour justement aller chercher ça. Et il y a énormément de choses que je pourrais pas faire tout seul, ou alors que je vais perdre énormément de temps à chercher à faire tout seul, si tant est que je réussis. Et ça, c'est vraiment un truc dans lequel je me retrouve dans ce que tu dis, parce que on a cette culture-là, très franco-française, de tu vois, de garder ses deniers et tout. Et non, l'argent, c'est un flux comme un autre. Et s'il y a bien un levier qui est quasiment infaillible, c'est le fait d'investir justement dans ses compétences et c'est le fait d'investir justement dans une structure économique comme une boîte, quoi. Tu ne peux derrière que en retirer des dividendes super intéressants. Mais par contre, effectivement à condition d'investir cet argent comme il faut, tu vois.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Maintenant, ma question serait en fait, c'est un investissement et un investissement est par nature risqué. Et du coup, comment tu arrives à à quantifier toutes les variables, en fait, les inconnues, pour avoir une certaine sécurité qu'il y aura un ROI. Et tout ça, pour nous, c'était pas évident parce que ça veut dire quoi investir sur le marketing? Tu vois, c'est tout dépend sur Facebook Ads qui marche de ouf chez nous d'ailleurs. Et Facebook Ads, mais tu sais pas combien de clients tu vas convertir. Tu vois, et tu peux être très très sympa avec l'accent un peu espagnol qui fait charmer les gens et tout. Mais tu sais pas en fait au final. Et du coup, cet ROI, tu vois, c'est pour nous, c'est difficile à quantifier en amont. Et quand je disais tout à l'heure, j'étais dans une grosse boîte, on investissait énormément. Et, mais énormément d'investissements, en fait, au final, tombaient à l'eau. Tu vois, donc, c'est vrai, il faut investir, c'est sûr, mais comment choisir l'investissement à faire dans une société? Le système d'information que tu viens de citer, c'est extrêmement intéressant. C'est assez, on va dire, binaire. Il faut investir, avoir une plateforme, une infrastructure technologique vraiment puissante pour pouvoir scaler. Ça, c'est assez linéaire comme retour d'investissement. Mais sur la vente, le marketing, tu vois, on est toujours deux sans vraiment un bagage commercial. Et comment, du coup, décider ou avoir un ROI sur la transformation d'une personne et le faire sortir de son savoir-faire et le mettre dans un autre. Tu vois, c'est plutôt ça, en fait, non?
Bah tu viens de décrire la stratégie. Hein. La stratégie, c'est prioriser. Mm. C'est tout simplement prioriser, c'est-à-dire identifier parmi toutes les opportunités que tu as, tous les chantiers potentiels, bah, sur lesquels te concentrer à l'instant T. Mm. Et en fait, là, pour moi, il y a une façon très, très simple de procéder. C'est, tu sais, avec Romain, vous avez fait une mind map au début.
Ouais.
C'est de faire une cartographie de tes process actuels, de ton existant, en fait. Donc, de désosser ton système.
Ouais.
Et de regarder là où ça pêche, tout simplement. Parce que ta boîte, tes résultats sont le fruit de ton système et ton système, les résultats de tes systèmes sont toujours proportionnels à l'étendue, la gravité de ces contraintes. Mmh. Donc, si tu as une contrainte, forcément, cette contrainte va influer négativement sur tes systèmes. Donc, une contrainte, c'est quoi? C'est par exemple un process qui tourne pas. C'est par exemple un canal d'acquisition qui tourne pas ou un process qui va nuire à ta delivery, tu vois. Et donc, ton rôle, c'est d'identifier ces contraintes.
Oui.
Ensuite, de les prioriser par degré d'urgence et après de prendre les décisions qui s'imposent, tu vois. Et après, pour moi, tu parlais tout à l'heure de la certitude. Comment est-ce que tu t'assures d'investir correctement? Pour moi, il y a trois variables. Tu peux même en faire une équation, en fait. T'as trois variables pour moi pour quantifier un investissement. Équation qui restera toujours de l'ordre du subjectif, hein, parce que t'as jamais un degré de certitude à 100% que ton investissement va payer, mais tu peux y tendre. C'est pour moi la première variable, c'est la garantie de résultat. Tu as des investissements qui tu investis dans un ETF, tu sais que tu as 99,9% de chance d'avoir X% tous les ans. T'investis dans certains accompagnements, tu as tellement de témoignages, t'as tellement de garanties, t'as tellement de périodes, t'intègres Harvard, tu sais que de toute façon, tu vas sortir, t'as une garantie de résultat qui est backée par de la data, tu vois. Voilà. Donc là, t'as une garantie, vélocité derrière de ROI, donc à quelle vitesse tu vas commencer à avoir du résultat, ce qu'on peut appeler le time to value, ça c'est essentiel aussi. Par exemple, Harvard, super intéressant d'un point de vue garantie de ROI, par contre, tu vas mettre très très longtemps à l'encaisser, tu vois, ce ROI. Donc t'as un enjeu de cash flow quand même qui est considérable, c'est pour ça que tu dois faire un prêt. Et ça se joue quand t'es étudiant, mais c'est la même mécanique quand t'es entrepreneur. Et dernier point, c'est quelle part de ta capacité d'investissement cet investissement représente. Est-ce que ça représente 10% de ta liquidité? Est-ce que ça représente 1%, 5%? Est-ce que ça représente 50%?
Ouais.
Et en fait, pour moi, c'est vraiment les trois variables qui te permettent de quantifier si l'investissement est judicieux ou pas à un instant T, tu vois.
Je pense que ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et ce que je remarque, c'est que c'est très data-driven et basé sur un passé avec l'historique quantifiable et quantifié. Et maintenant, pour une société qui se lance avec un nouveau produit sur le marché où il n'a pas de data, tu as juste deux clients et ça ne fait pas la généralité.
Il faut la produire, la data.
Voilà, exactement. Ouais. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, du coup, après 9 mois grâce à Scalesia. Mais en fait, au début, justement, c'est l'inconnu total. C'est, ouais. Tout est aléatoire. Et tout dépend justement de ma capacité, parce que c'est moi qui ai fait le cours, et d'absorber les informations, de pratiquer, de tu vois, mais prendre le plaisir d'être confronté par le marché, parler avec des clients, des prospects. Et, mais en fait, c'était ça mon point tout à l'heure, c'est que quand t'es tout au début, un produit qui est un peu différent, et là, t'as pas des points de comparaison. Voilà.
Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Et là, c'est pour ça que, et tu l'as super bien fait, parce que là, tes résultats, ils parlent pour toi, tu vois. T'y allais à fond dans la génération de cette data. T'as généré ce feedback, tu t'es confronté au marché, t'y allais. Et c'est ça qui fait toute la diff. Aujourd'hui, les résultats, c'est vous qui les avez produits. Nous, on a été là pour vous accompagner, pour vous donner justement ce cadre-là, cet environnement-là, propice à ce que, mais c'est vous qui l'avez fait, tu vois. Donc, trop bien. Et qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire?
Mieux faire. C'est un peu compliqué. Je pense que j'aurais bien aimé vous voir en live.
Okay.
Au moins une fois.
Okay.
Parce que tout était à distance. Et j'aime bien justement les relations. On se parle vraiment deux à deux dans une salle. Et tout à distance, ça donnait beaucoup de flexibilité. Je pourrais le faire quand j'étais à la mer, à la plage. Mais en fait, vraiment, dans une salle, ça aurait été vraiment sympa. Après, par exemple, pour nous qui étions très novices, je pense que j'aurais bien aussi aimé faire des choses un peu plus concrètes. Tu vois, et pas juste deux fois les stratégies, qui est très bien, mais aussi, par exemple, aller configurer avec moi des Facebook Ads, tu vois, ou LinkedIn Ads, mais montrer vraiment les étapes à suivre. Prendre une heure pour vraiment hands-on, ça aurait pu être très intéressant. Et, mais après, voilà, c'était déjà, les chiffres parlent, donc voilà, c'était très
bien. Trop bien. Mais il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que tu... Là justement, je te prends un peu au dépourvu. Est-ce que tu aurais une thématique sur laquelle tu aimerais qu'on réfléchisse là, un problème que tu aimerais que je t'aide à résoudre potentiellement, dans mes humbles moyens?
Alors, je réfléchis. Tu vois... Aujourd'hui, je disais, on est obsédé par les canaux de distribution. Okay. Et les clients directs, en fait, ils viennent vraiment 80% de nos clients directs, ils viennent à bouche à oreille ou par d'autres partenaires. Et aujourd'hui, on chasse, on va dire, peu par rapport à ce qu'on pourrait faire.
Okay.
Parce que je pense que justement, le produit... intéresse et apporte une valeur, donc les gens arrivent presque tout seuls. Maintenant, en fait, on passe vraiment un cap l'année prochaine sur les ventes indirectes.
Okay.
Ça veut dire quoi, en fait? Si tu veux, tu peux voir l'INO comme une infrastructure de financement. On est en train de connecter cette galaxie de financement pour que ça soit vraiment hyper fluide pour nos clients, hyper fluide en fait pour le financement de BFR et trésorerie. Pour des grosses sociétés comme des plus petites. Et là, on va donner l'INO comme cette solution de financement et des pilotages de financement BFR à deux canaux. Le premier, c'est les courtiers. Les courtiers qui veulent accompagner leurs clients, en fait, dans la recherche et le pilotage de solutions de financement. Donc, vraiment marque grise pour ces typologies de personnes. Mais il y a aussi les experts comptables. Donc, mon point, c'est plutôt sur les experts comptables. C'est un cible, en fait, très complexe parce qu'ils ont pas le temps. Ils sont pris partout et ils ont beaucoup, beaucoup de tâches à gérer dans leur quotidien. Et du coup, l'idée, c'est justement, ils ont envie ou ils ont besoin d'un outil plus proactif que réactif. C'est-à-dire, quand je dis réactif, de ce qu'on a compris de marché, c'est qu'ils ne voudraient pas... devoir saisir à la main ou parler, demander à un client s'ils ont besoin de trésorerie ou de financement. Il voudrait justement un outil plus proactif, c'est-à-dire d'être connecté aux données comptables, ce qu'on fait un peu déjà. Et et faire des alertings au cabinet pour qu'ils puissent mieux accompagner leurs clients quand il faut. Vraiment leur dire, écoutez, ce client a besoin du coup d'un accompagnement de solutions de financement. Et en plus, l'INO propose les solutions qui vont avec. Et du coup, ils arrivent vraiment avec la mission déjà préfaite et ils parlent avec leurs clients. Du coup, ils signent une nouvelle lettre de mission pour un accompagnement dans le temps. Mais ça demande beaucoup de travail technique, et c'est-à-dire pour l'expert comptable. Et ma question sur ça était comment du coup, et on va dire équilibrer le travail qu'on a déjà, parce que on a beaucoup beaucoup de choses à faire, sachant qu'on est deux personnes, avec des investissements techniques pour du coup bien et satisfaire la cible des experts comptables. Je ne sais pas si c'était clair.
Ouais, bien sûr. Comment tu splits? Là, tu as dit la première fois que vous étiez deux personnes avec deux freelances.
Oui.
Tu as dans l'intention de recruter ou pas?
Oui, on est en plein levée.
Ok. Parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, ça va passer par là.
Oui.
Si tu veux commencer à te concentrer sur plusieurs sujets à la fois, bah, tu vas être obligé de commencer à déléguer. Donc, ça va débloquer pas mal de choses. Quoi qu'il arrive, après, là, aujourd'hui, moi, j'aurais tendance, là, je vais te parler vraiment comme si tu me donnais comme si tu me donnais, pour moi, je considérerais pas ça comme du défocus.
Ouais.
Tu vois, d'aller te concentrer sur, d'aller bosser les experts comptables. Pourquoi? Parce que ça reste le même produit.
Mmh.
Ça reste le même produit.
Exactement.
Certains avec des... Donc, c'est pas du défocus en tant que tel. C'est une autre audience, c'est une autre mécanique de distribution.
Oui.
Mais par contre, ça fait partie d'un go-to-market qui, à mon sens, est essentiel. Par contre, ce que j'irai voir, c'est j'irai identifier les passerelles potentielles entre ce marché que tu adresses déjà aujourd'hui, donc les entreprises et donc les boîtes avec lesquelles vous bossez déjà, que vous financez déjà, certaines sont déjà très contentes et tout, et bah ce segment-là des experts comptables.
Mm.
Donc moi, ce à quoi j'irai réfléchir, c'est aux effets de levier potentiels plutôt que à l'échafaudage d'une nouvelle stratégie go-to-market qui là par contre risque d'être trop chronophage à l'instant T.
Ouais.
Donc moi en fait j'irai de façon très très organique, honnêtement j'irai contacter mes clients effectifs, les clients que j'ai financés, ceux qui sont contents, ceux avec qui j'ai un bon relationnel. J'en dirai, écoute, trop cool, est-ce que je peux avoir une intro avec ton expert comptable? Pour telle raison, voilà, tu l'expliques, mais c'est des gens nécessairement avec qui t'as déjà eu du lien, en tout cas, avec qui t'as tout intérêt aujourd'hui à créer du relationnel, t'as 50 clients, vraiment faisant tes power users, quoi.
Ouais.
Parce que t'es sur un marché, et je le sais parce que je suis entrepreneur, qui est extrêmement capillaire.
Mmh.
Capillaire, c'est-à-dire que les interconnexions entre les différents membres constitutifs de ce marché sont extrêmement fortes. Donc les entrepreneurs vont parler entre eux et tout, s'ils ont bien été servis. Et donc là, t'as tout intérêt à magnifier aujourd'hui la relation avec la majorité de tes clients, le plus de clients que tu peux. Et donc moi, j'irai demander, je m'embêterai pas du tout, des intros avec des experts comptables. Et j'apprendrai le truc en mode demande de feedback. Hello, Timéo, c'est ton client que t'as financé il y a un mois. Trop cool, vraiment trop cool de bosser ensemble. On est en train de bosser, tu peux sûrement me rendre un service. On est en train de bosser justement sur une version expert comptable de l'INO. Et en fait, je recherche des experts comptables à qui simplement demander du feedback, à qui poser quelques questions. Est-ce que tu serais chaud de me faire juste une petite intro tranquille par mail avec ton expert comptable? Je lui pose quelques questions et voilà. Et tu vas lui demander effectivement, donc il va te faire nécessairement l'intro, il y a de fortes chances, sinon Timéo pas cool. Et tu vas poser des questions à l'expert comptable, tu vas créer du relationnel avec lui, et à partir de ça en fait tu vas déjà identifier ce sur quoi te concentrer ou pas. Tu vas là potentiellement identifier des choses que t'avais pas identifiées au préalable, des problématiques que t'avais pas identifiées, et tu vas aussi identifier une intention d'achat. Voilà. Est-ce que là, à l'instant T, quand t'en discutes, quand tu lui pitches, quand tu lui présentes, quand tu joins son problème avec ta solution potentielle, est-ce que là, il a envie d'y aller, tu vois? Et là, go. Mais j'irai, pour l'instant, de façon très, très organique comme ça. Aujourd'hui, justement, t'es encore à taille humaine. Donc, pour moi, t'as absolument tout à gagner et même plus tard, hein,
ouais.
Mais aujourd'hui, à capitaliser au maximum sur cette taille humaine-là
et échanger. Et donc là, oui, j'irai l'attaquer ce segment-là de cette manière. Je m'embêterai pas.
Ouais. Ouais, je comprends.
Et demain, t'as tout à gagner aussi. Enfin, un canal qui peut vraiment, vraiment faire la diff de ton côté, c'est de l'affiliation. Tout simple. Justement, capitaliser au maximum sur cette capillarité-là de marché. Parce que tu vas très vite te retrouver avec des entrepreneurs très, très bavards. Si derrière, tu back ça avec une incentive, j'ai n'importe quoi, j'en sais rien, tu vois, mais on t'a pas encore financé, ou alors on t'a déjà financé. Si tu nous ramènes un dossier, c'est on rajoute nous-mêmes, je dis n'importe quoi, 5K à ton prochain levier, tu vois. Voilà, c'est cadeau. Tu peux trouver des petits trucs comme ça. D'autant plus si toi-même tu lèves, tu peux financer ça. Mais ça, si tu budgètes bien ça vis-à-vis de ton coût d'acquisition, tu peux vraiment vraiment faire très très mal, quoi.
Non, mais c'est hyper intéressant, sachant que notre business model, c'est plus commission de courtage, mais vraiment l'abonnement. Parce qu'on pilote avec le client, certes de manière automatique, et l'OBFR, la trésor.
OK.
Mais justement, c'est ce qu'on propose aux experts comptables. D'ailleurs, on est accéléré par Inest, qui est l'accélérateur de l'ordre des experts comptables Île-de-France.
OK.
Qui nous aide énormément. Et du coup, on a eu accès à un pool une trentaine d'experts comptables. C'était très intéressant, mais c'est ce que tu dis, assez intéressant aussi, c'est que plutôt que déployer l'énergie sur, si j'ai bien compris, hein, sur un time to market, le growth expert comptable, passer vraiment par nos clients qui nous adorent et du coup, on fait vraiment de manière plus relationnelle que, on va dire, plus froide sur la chasse LinkedIn ou Facebook, quoi.
Tu vois ce relationnel que les bons experts comptables vont créer avec leurs clients. En fait, t'as tout intérêt à émuler la même chose de ton côté.
Ouais.
Et à devenir vraiment très pote, vraiment devenir un partenaire à part entière de tes premiers clients. Mais si tu te positionnes de cette manière-là, vraiment comme un partenaire plus que comme un SaaS, comme une plateforme, là, tu vas te débloquer des relais de croissance que tu soupçonnes pas aujourd'hui. Parce que justement, tu vas activer cette capillarité, mais à fond, quoi. Et tu vas te retrouver avec, tu vas voir, hein, tu vas te retrouver avec 20% de tes clients qui vont te faire intro sur intro sur intro.
Non, mais c'est clair.
Parce que dis-toi qu'un entrepreneur qui a des problèmes de BFR, il croise 5 entrepreneurs par semaine qui ont des problèmes de BFR.
Ouais, c'est
donc s'il te kiffe, il va te distribuer, mais à tout le monde, quoi.
Ouais. Et tu vois, bon, on est arrivé au bout, mais tu vois, c'est aussi une question que j'avais pour toi. Et parce qu'aujourd'hui, vous êtes une société de service, donc c'est l'humain derrière qui crée vraiment de la valeur.
Ouais. Nous, on productise aussi beaucoup, de plus en plus, ouais.
Exactement.
On lit les deux, ouais. Mais ouais, service à fond.
Ouais. Et du coup, nous, on est plus technologique, mais derrière, il y a moi, on va dire, qui fait la partie pour mieux connaître le marché, nos clients, les besoins et les problématiques. Il y a un gros côté humain. Et non, merci. Et en fait, justement, on commence à scaler assez vite. Et quand ces parties humaines, je sais pas si la question, tout est posé la même question, ces parties humaines deviendra un peu moins importante. En fait, comment tu arrives à garder ces relations hyper fortes avec les clients, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des clients avec qui je parle presque tous les jours sur WhatsApp, ils m'appellent, on va déjeuner, on va dîner ensemble. Tu vois, on a créé vraiment un partenariat, comme tu disais.
Ouais.
Mais c'est parce que justement, je suis de très, très près leur problématique pour mieux comprendre. Un peu ce côté chercheur après mon doctorat. Mais du coup, justement, comment tu arriveras à scaler avec moins de relations humaines?
Ça, tu l'engineer, en fait. Ça, tu le playbookises et t'embauches des gens qui vont le faire pour toi, pour que toi tu puisses continuer de le faire avec certains clients, avec des key accounts, t'as toujours intérêt à continuellement créer du lien en tant que CEO, mais au bout d'un moment tu l'engineer. Donc après c'est embaucher des account managers, des key account managers, c'est créer un community builder qui va faire du one to many, des account managers où vont faire du one to one. Mais ça, en fait, dis-toi qu'aujourd'hui, ce travail-là que tu es en train de faire, documente-le le plus vite possible. Fais-en un playbook que tu vas faire évoluer pour que demain, quand tu embauches un account manager qui a déjà de l'expérience, qui est déjà capé, en n'ayant qu'à exécuter le playbook, en fait, aura déjà du résultat.
Ouais.
Voilà. Et ce travail de documentation, en fait, va faire toute la diff. Mais c'est comme ça que tu scales. comme ça que tu scales du relationnel, en fait.
Ouais, je comprends.
Et ben, j'espère que ça t'aide, en tout cas.
Bah oui, oui, carrément, carrément, trop, trop, trop cool. Vraiment intéressant. Et non, non, c'était, c'était top.
Génial. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Bah, de la belle croissance.
Ouais. Bonne chance pour la levée. Je suis sûr que ça va le faire.
Exactement. Exactement. La levée. Et puis, voilà. Je pense que pour nous, c'est vraiment, comme tu disais, recruter.
Ouais.
C'est la clé. Et parce qu'on travaille beaucoup. Et je pense que mon associé, il est en train de coder là. Il code, je pense, 20 heures par jour. Donc, il faut vraiment qu'on, voilà, qu'on recrute. Mais... Et en tout cas, c'est cool.
Bah, courage à lui. Hein. Courage à lui. Faites gaffe à votre ratio product. Et product et delivery.
Okay.
C'est-à-dire que le produit va pas ne va être qu'un pan de la delivery, mais t'as aussi un gros pan humain et je pense que ça peut être vraiment différenciant pour vous de coupler ça à vraiment du service en tant que tel, tu vois, du conseil, de l'accompagnement, quelque chose que tu vas donner en plus en fait du produit, de la plateforme,
ouais,
de la tech. Là vraiment tu fais un gros banger quoi.
Voilà, top.
Ben Louis, merci.
Merci à toi.
De ta confiance.
Merci
et,
à toi.
On se retrouve à très vite.
Yes.
À très vite pour un. On se retrouve à très vite pour un prochain épisode et d'ici là, le BFR ira mieux.
Merci, merci beaucoup pour l'invite.
Salut.
À bientôt.